chapitre 1. Philippiens au chapitre 1. À l'épître aux Philippiens, donc nous allons peut-être passer quelques temps dans cette épître, pas forcément dans tous les détails ou verset par verset, hein, il y en a 104, il faudrait 104 dimanches pour faire si on faisait un verset par un verset, mais en tout cas on veut voir peut-être des grands thèmes qui sont développés dans cette épître et aujourd'hui on veut juste s'arrêter sur un survol de l'épître aux Philippiens. Pour avoir une vue d'ensemble, c'est toujours important de faire un survol. Quand on fait quelque chose et on regarde les choses particulières par les choses particulières, on peut perdre de vue la pensée globale directrice de celui qui a écrit la lettre. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on regarde un aspect général de cette lettre. Et si vous avez déjà lu l'Épître aux Philippiens, c'est très court, hein, 4 chapitres. Vous pouvez lire cela très, très rapidement. L'Épître aux Philippiens est une épître qui nous laisse entrevoir vraiment le cœur de l'apôtre Paul, son attitude à l'égard d'une église, des chrétiens et des chrétiens qui constituent cette église, c'est l'église de Philippe. Et Paul se trouve dans ce moment où il écrit cette lettre dans une situation très très délicate puisqu'il est à Rome, il est en prison, il est surveillé. Bon, la Bible dit à la fin du livre des Actes qu'il avait une certaine marge de liberté, mais il était gardé par un soldat. Et il nous arrive parfois de dire « priez pour moi parce que je passe par des moments » difficile. On dit parfois aussi prier pour un tel ou un autre qui passe par des moments difficiles. Et puis il arrive que, bien souvent dans nos moments difficiles, notre réflexe, ça arrive peut-être pas pour tous, mais parfois ça arrive que notre réflexe soit de nous couper de la communion de l'Église ou de nous couper des autres et de vivre un petit peu en solitaire nos moments de difficultés. Et si c'est le cas, eh bien, cette épître est très instructive pour nous à cet égard. Et si nous sommes découragés, nous pouvons trouver dans cette lettre, je crois, beaucoup de motifs d'encouragement. Et donc, avant de regarder un petit peu en détail cette lettre, eh bien, on veut prendre le temps de la regarder de manière générale. Et si vous avez déjà lu l'épître aux Philippiens, vous savez que le thème qui domine cette épître, peut-être vous savez, c'est la joie. La joie. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur l'épître aux Philippiens, il l'a intitulé « Soyez joyeux ». Soyez joyeux. Il a fait toute une série de commentaires sur différents livres du Nouveau Testament avec à chaque fois « Soyez, soyez, soyez ». Et pour l'épître aux Philippiens, c'est « Soyez joyeux ». Plusieurs fois, il est question de la joie ou de se réjouir dans cette épître. Alors moi, j'en ai compté 16. Hein. Peut-être vous pouvez en compter, je pense. Si on prend là où Paul parle du contentement encore, on pourrait ajouter 16 à 18 fois où il est question soit de la joie, de manière générale, ou soit du fait de se réjouir. L'apôtre Paul dit qu'il se réjouit et même où il invite, où il appelle les Philippiens aussi à se réjouir. Donc non seulement Paul, dans cette lettre, exprime sa joie, mais il appelle ses lecteurs à la joie. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce que la joie ? C'est vrai qu'on a peut-être chacun notre petite définition de la joie. Si on regarde dans le dictionnaire, le dictionnaire dit, le Larousse en tout cas, dit « sentiment de plaisir, de bonheur intense caractérisé par sa plénitude » et sa durée limitée et éprouvée par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou est en voie de l'être. Donc vous voyez, c'est ici la joie est un sentiment de plaisir qui est lié au fait que que l'aspiration, en tout cas selon la définition qui est donnée ici, au fait que l'aspiration sera satisfaite ou est sur le point d'être satisfaite. Et donc la joie est mise en relation, en corrélation avec la satisfaction et donc avec les circonstances probablement qui nous entourent. C'est pour la plupart des gens d'ailleurs, hein, la joie est intimement liée aux circonstances. Si on a des circonstances positives et bonnes, eh bien on a tout lieu d'être joyeux. Mais si les circonstances sont difficiles, sont mauvaises, eh bien on peut comprendre qu'on ne puisse pas avoir la joie. Donc c'est quelque chose qui est piloté, hein, selon la plupart des gens, par les circonstances extérieures. Et si vous êtes un peu vieux comme moi, vous avez peut-être connu un chanteur qui s'appelait Charles Trenet. Je ne sais pas si c'est les plus vieux, peut-être les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est, ils disent de quoi il parle, lui là. Eh bien, il avait composé une chanson qui s'appelait Il y a de la joie. Ça fait le tour, hein, du monde. Et je vous lis quelques paroles quand même de ce. C'est pas un cantique, hein, c'est un. Il dit, il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie, le soleil et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Et puis dans la dernière strophe, pas le tout sort, mais la dernière strophe, il dit, mais soudain, voilà, je m'éveille dans mon lit. Donc, j'avais rêvé. Oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Pour lui, la joie donc, qu'il a chantée, c'était, oui, le soleil brille, les choses sont belles autour, mais finalement, quand il se réveille, eh bien, le ciel est gris et les circonstances mauvaises sont là. Et en fait, il n'y a pas lieu de chanter, il y a de la joie parce que, eh bien, ça n'est qu'un rêve. Et dans la Bible, la joie, ou être joyeux, n'est pas un rêve. Ça n'est pas une utopie. Ce n'est pas un idéal qu'on ne peut jamais atteindre. Et si l'on regarde attentivement la lettre aux Philippiens, non seulement l'apôtre Paul, je l'ai dit, exprime sa joie, non seulement il encourage les chrétiens de Philippe à être joyeux, mais il commande d'être joyeux. Philippiens 4:4, c'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » C'est un commandement. Et on peut se demander, mais est-ce qu'on peut commander à quelqu'un d'être joyeux? Eh bien, selon l'Écriture, oui. Parce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, ici, commande aux chrétiens d'être joyeux. Et donc, ce qui est paradoxal, en plus, dans cette épître, c'est que celui qui exprime sa joie et appelle les Philippiens à la joie, lui-même se trouve dans des circonstances extrêmement difficiles. Le temps serait trop long si on prenait la peine de regarder depuis le livre des Actes toutes les souffrances qui ont conduit l'apôtre Paul jusqu'à la prison à Rome. Vous savez comment il a été persécuté, roué de coups à Jérusalem, partout où il y avait les Juifs contre lui, les autorités contre lui, etc. Et il a fait un naufrage en allant à Rome. En fait, il est passé par des circonstances extrêmement difficiles. Il se trouve en prison depuis 2 ans. Il attend son jugement. Hein. Déjà à cette époque, la justice prenait du temps, hein, comme aujourd'hui. Hein. Il attend à Rome depuis 2 ans. Pour que son cas soit instruit. Et il ne sait même pas ce qui va se passer, ce qui va advenir de lui. Mais il écrit pendant ce temps où il est emprisonné, où il y a un garde qui est là jour et nuit, enfin des gardes qui se relèvent, qui sont là jour et nuit. Eh bien, il écrit cette épître et plusieurs autres épîtres, l'épître aux Colossiens, on appelle ça les épîtres de la captivité, l'épître à Philémon, etc. Éphésiens, donc ce sont des épîtres qu'il écrit pendant qu'il est en prison. Et dans cette épître, il commande aux chrétiens d'être joyeux. Réjouissez-vous toujours, dit-il, dans le Seigneur. Et donc cette lettre se dresse, on pourrait dire, en faux contre toute pensée qui voudrait que la joie soit dépendante des circonstances, hein, que l'on vive, que la joie soit la conséquence des circonstances dans lesquelles on se trouve. Et on pourrait se demander, mais quels sont les fondements ici de la joie de l'apôtre Paul? Eh bien, on pourrait lire déjà une partie du chapitre 1. Donc c'est juste un survol, je vous dis, on ne va pas rentrer en détail dans toutes les parties de l'épître, mais déjà, on a lu tout à l'heure le verset 15 jusqu'au verset 30, donc je vous propose de lire le verset 1 jusqu'au verset 14. Philippiens chapitre 1, verset 1 à 14, et il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. » Déjà, il commence, hein, dès le verset 3 avec cette joie. « Manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, et que ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc ceci est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors on pourrait se poser la question, quel est le fondement de la joie de l'apôtre Paul? Comment fait-il pour être joyeux dans de telles circonstances? Pensez à nos circonstances, quand nous avons des circonstances difficiles qui nous atteignent. Comment est-ce que nous pourrions écrire comme l'apôtre Paul écrit? Est-ce que nous pourrions encourager même d'autres à être joyeux, alors que nous-mêmes, nous sommes dans des circonstances que le monde trouverait des circonstances désastreuses ou malheureuses? Je crois que la première chose, en tout cas, que je veux relever, qu'on peut relever à travers cette épître, c'est que Paul est joyeux, il se réjouit parce qu'il a fait de Christ l'objet de ses pensées, de toutes ses pensées. Il a placé Christ vraiment au centre de toutes ses pensées. Ce qui frappe à la lecture de cette lettre, on a dit, il est beaucoup question de joie ici, mais Paul fait un certain nombre de fois référence à Christ, à Jésus-Christ, au Seigneur. Et sans compter les expressions où il emploie le mot « Seigneur », eh bien, j'ai compté à peu près 38 fois dans l'Épître où l'apôtre Paul parle de Christ, de Jésus-Christ. Sans compter les fois où il parle du Seigneur, quoi. Il n'emploie pas le mot « Seigneur ». 38 fois en 104 versets, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est beaucoup. Et donc, il considère sa vie entière, dans la situation où il est, en référence à Jésus-Christ. Le verset, chapitre 1, verset 21, regardez ce qu'il dit déjà. Ça, c'est un des versets forts de ce passage. Il dit, Christ est, verset 21, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Voilà, il est dans une situation et il dit, car Christ est ma vie, et mourir met un gain. Un peu, chapitre 3, il dit, il estime la valeur de toute chose en rapport avec Christ. Il dit, et même je regarde toute chose comme une perte. Il parlait de tout ce qu'il avait, de tout son, on pourrait dire, il décline tout son pédigré, hein, tout son curriculum vitae, et il dit que je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est-à-dire qu'il place vraiment Christ dans sa pensée et il estime toute la valeur de toute chose en rapport avec Christ. Et rien ne fait le proie, il dit, face à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il aspire être même avec Christ, partir pour être auprès de Christ. Hein. Chapitre 1, verset 23, il dit, « Je suis pressé des deux côtés, je ne saurais dire ce que je désire, rester avec vous ou alors partir auprès de Christ. » Il dit, « Ce qui est meilleur, c'est de partir auprès de Christ. Hein. » Je ne sais pas si nous sommes capables de parler comme cela. Hein. On a peut-être des petits projets qui nous tiennent à cœur et qu'on aimerait réaliser avant que Christ nous prenne. J'ai parlé avec quelqu'un, une dame qui est très, comment dirais-je, très zélée dans son expression, dans son évangélisation, et elle vient d'un milieu plutôt charismatique, et elle me dit, voilà, il y a des gens qui me veulent du tort, mais je sais que le Seigneur est là et qu'il veut me délivrer. Mais il y a des gens qui ont dit à mon mari que des personnes veulent la mort de ta femme. Alors je dis, ah bon, il me dit, mais Dieu me garde parce qu'il a des promesses pour moi. Je lui dis, mais la promesse aussi que Dieu a pour nous, c'est qu'on soit auprès de lui. Donc, si jamais il t'arrive quelque chose, tu seras auprès de lui. Mais, ah non, pas de... Donc, elle pouvait parler de Dieu avec cette force, cette fougue, que Dieu va la protéger, mais il faut la protéger de la mort. Mais j'ai dit, mais la promesse de Dieu, c'est qu'on soit auprès de lui. Oui, mais il m'a dit, il y a d'autres promesses qu'il doit accomplir avant. Exactement dans ces termes. Il y a d'autres promesses qu'il doit accomplir avant. Et parfois, nous agissons de la même manière, n'est-ce pas? Nous voulons nous marier avant, avoir des enfants avant, un bon travail avant. Enfin vivre quoi, hein, connaître les choses de la vie avant que le Seigneur ne revienne. Mais l'apôtre Paul, lui, il dit, partir auprès de Christ, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais il dit, si c'est nécessaire que je reste, mais il est préférable que je reste. Mais franchement, ce que je désire, c'est être auprès de Christ. Il place aussi les circonstances de sa vie dans la providence de Christ. Il dit que Christ est souverain sur toute chose. Au verset 13, il dit aux Philippiens que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et c'est ce qu'il a dit à tous les gens qui étaient à côté de lui, parce qu'il dit partout, dans tout le prétoire, c'est-à-dire dans toute la garde prétorienne, il dit partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. C'est-à-dire que ce que les gens savent de sa situation à lui, c'est pas les Juifs m'ont battu à Jérusalem, j'ai fait naufrage, etc. On a failli me tuer, on m'a tendu des pièges. C'est pas ça que les gens savent de sa situation. Ce qu'il transmet de sa situation, c'est que je suis là à cause de Christ. Et les gens entendent parler de l'Évangile parce que ils savent que Paul est dans cette situation et que c'est Christ qui permet qu'il soit dans cette situation. C'est ce qu'il dit ici, c'est pour Christ. Personne n'ignore que c'est pour la cause de Christ que je suis dans les liens. Et dans l'Épître aux Éphésiens ou à Philémon, il écrit un peu de la même manière. Il ne dit jamais « je suis le prisonnier des Romains ». J'ai été lié par les Juifs, etc. Il dit, je suis par exemple en Éphésiens chapitre 3 verset 1, il dit, moi le prisonnier de Christ. Le prisonnier de Christ, pas le prisonnier des Romains. Il dit la même chose aussi à Philémon. Et donc on pourrait évoquer la situation de Paul par un tas de causes. On pourrait parler de la méchanceté de ses frères juifs. On pourrait même parler de sa mauvaise stratégie de défense. Parce que rappelez-vous, quand il est en face à Agrippa, il dit « Je veux être jugé comme il faut, j'en appelle à César. » Dans Actes chapitre 25. Et un peu plus tard, Agrippa dit « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » Mais il pourrait dire « Ah, dommage, j'ai mal joué le coup là, j'aurais pu ne rien dire et je serais libre. » Non, ce n'est pas comme cela que l'apôtre Paul voit les choses. Il voit la situation comme celle que Christ a prévue, a pourvue et sur laquelle il est souverain. Et donc pour la plupart des gens, vous savez, pour la plupart d'entre nous, les choses qui nous arrivent ont pour cause principale nos mauvais choix, la méchanceté des autres. Faute à pas de chance, on dit souvent, hein, faute à pas de chance. Bah, il s'est marié avec lui, bah, il est mal tombé, quoi. Il est mal tombé. Et on dit des choses comme ça, c'est-à-dire c'est les circonstances qui sont les causes. Bon, les circonstances sont des causes instrumentales, parfois, de ce qui nous arrive, mais nous ne devons jamais oublier qu'au-dessus de tout ce qui nous arrive, Dieu règne en souverain. Et c'est là la vision de l'apôtre Paul. Il dit, je suis ici pour la cause de Christ. Et même, j'ai trouvé un passage dans Actes chapitre 20, vous voyez, lorsqu'il part à Jérusalem, il dit, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Et il est d'abord, c'est l'Esprit, il voit ça comme ça, c'est l'Esprit qui le lie, il est lié au Saint-Esprit, et il fait ce que le Saint-Esprit le pousse à faire, il fait ce que Christ le pousse à faire, même s'il doit avoir sur son corps des liens. Ainsi, la joie au sein de la souffrance, chers frères et sœurs, était possible pour l'apôtre Paul parce qu'il avait dans sa pensée, il avait sa pensée occupée par Christ. Et quelqu'un a dit, un auteur a dit que la pensée d'un homme ne peut pas être occupée par deux choses différentes en même temps. Il est impossible de penser aux difficultés et en même temps de penser à Christ. Soit on est focalisé sur nos difficultés, les circonstances, soit on est focalisé sur Christ. On ne peut pas avoir l'esprit occupé par deux choses en même temps. Et c'est peut-être pour cela que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, d'ailleurs, au chapitre 4, verset 8, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Parce que si ça, c'est l'objet des pensées, il ne pourra pas y avoir autre chose. Parce que la pensée ne peut pas être occupée par une chose et son contraire en même temps. Par ce qui est vrai et ce qui est faux en même temps. D'accord ? Par ce qui mérite l'approbation et ce qui est malhonnête en même temps. Donc il dit, si vous placez dans vos pensées des choses qui sont justes, qui sont vraies, qui sont pures, eh bien, vos cœurs seront gardés en Jésus-Christ. Et c'était son expérience dans cette prison. Il a placé les choses qui concernent Christ dans sa pensée. Et il a pu expérimenter une véritable joie. Donc la joie de Paul, on pourrait dire, est liée à la présence permanente de Christ dans ses pensées. Et puis deuxièmement, la joie de Paul est liée par le fait qu'il considérait les adversités comme des opportunités. La joie de Paul était liée au fait qu'il considérait les adversités comme des opportunités. Ce qui empêche parfois la joie de se... qui empêche notre joie, peut-être, hein, c'est que l'on voit les difficultés comme des difficultés. On voit les obstacles uniquement comme des obstacles. Et on cède à la panique. Et on pose toutes sortes de questions. L'église de Philippe, sans doute, a appris ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Et certainement, elle se dit, mais qu'est-ce ? Et vous savez, quand vous avez un être qui vous est cher, qui souffre, qui est loin, qui est en prison, et vous posez toutes sortes de questions, mais comment il est ? Dans quel état il est ? Est-ce qu'il va bien ? Etc. Et quand, par exemple, un ressortissant français est pris en otage quelque part, eh bien, on se pose souvent des questions sur les conditions de sa captivité. Est-ce qu'il est en bonne santé ? Est-ce qu'il est traité dignement dans ce pays où il est captif ? Et certainement, les Philippiens avaient le même genre de sentiment à l'égard de Paul. Ils s'inquiétaient. Et la distance et le temps, parfois, viennent amplifier notre perception, parfois, des choses et notre inquiétude. Mais Paul, en écrivant cette lettre, il leur dit ceci. Je veux, verset 12, Philippiens 1, verset 12, je veux que vous le sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ainsi, il dit, loin d'être un frein, la captivité a été une opportunité pour le progrès de l'Évangile. Donc Paul savait considérer les circonstances difficiles dans lesquelles il se trouvait comme des opportunités. Et quand il parle de ce qui m'est arrivé, eh bien, c'est toute la souffrance qu'il a subie, toutes les conditions difficiles dans lesquelles il vit maintenant, toute sa captivité à Rome. Il était sous Néron, et Néron, vous savez qui c'était, prenez le temps de chercher qui était l'empereur Néron. Quelqu'un a décrit Néron comme un amas de boue et de sang. Voilà. Tellement il était féroce et exécrable en tuant ses parents. Enfin bref, c'était un sanguinaire indescriptible. Eh bien, l'apôtre Paul est dans ses prisons, dans ces prisons-là, enfin, à Rome en tout cas, retenu captif. Et il dit que tout ce qui m'est arrivé, chers frères et sœurs, je veux que vous sachiez que cela a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Pas à freiner l'Évangile, mais à plutôt contribuer au progrès de l'Évangile. C'est ce qu'il veut communiquer aux Philippiens, que tout ce malheur à vue humaine, cette limitation dans ses mouvements, a permis la progression de l'Évangile, l'opportunité de faire progresser l'Évangile. Mais comment, on pourrait se poser la question, comment est-ce que lorsque le prédicateur est immobilisé, il peut aller vers le monde pour que l'Évangile se propage? Que nous, si j'avais plus de santé, plus de force, si j'avais des moyens de locomotion, je pourrais aller et propager l'Évangile. Et parfois, on peste contre nos situations parce que on se dit, si voilà, j'avais plus, je pourrais faire plus. Eh bien, si le prédicateur ne peut pas bouger vers le monde, Dieu fait bouger le monde vers le prédicateur. Et Paul était en prison et il dit, dans tout le prétoire, c'est-à-dire dans toute la garde et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Ça veut dire qu'il a pu propager des choses. Mais comment est-ce qu'il a fait? Ben, il était gardé. Et la garde, ça se relève, n'est-ce pas? Un garde, ça ne reste pas 24 heures sur 24. Moi, j'ai fait le service militaire. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait ça. Maintenant, les jeunes, un peu plus. Dommage. J'ai dit à mes élèves une fois, si j'étais président de la République, je réinstaurerais le service militaire. Ça fait du bien. En tout cas, j'ai fait mon service militaire et j'ai fait la garde. J'ai monté les gardes. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben venez me voir, je vais vous donner, raconter des histoires. Les jeunes hommes. Eh bien, les gardes étaient relevées hein, toutes les 2 heures. Et on peut imaginer, je ne sais pas combien de temps c'était à l'époque de l'apôtre Paul, mais on peut imaginer que voilà, ces gardes étaient relevées constamment. Ce n'était jamais la même personne. Et qu'est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul a fait chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne à côté de lui? Il a recommencé à raconter pas ses malheurs. Il dit, j'ai que 2 heures à passer avec cette personne. Est-ce que je vais lui parler de mes malheurs, de mes états d'esprit, de l'injustice qui m'est faite? Non, il parle de Christ. Et il dit, dans tout le prétoire, et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ qu'il est dans les chaînes. Et quand il signe la lettre à la fin, vous rappelez, il transmet les salutations. Regardez en Philippiens chapitre 4 et au verset 22, il dit « Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. » D'accord ? Et on peut imaginer qu'il y a eu des personnes qui se sont converties pendant cette période. Jusque dans la maison de César. Et vous rappelez, Onésime, l'esclave qui a fui Colosse pour venir à Rome, s'est trouvé avec Paul dans la prison. Il est rentré esclave, et Paul dit, je te le renvoie, Philémon dit, je te le renvoie, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Pourquoi? Parce qu'il a saisi cette situation qui était la sienne comme une opportunité. Et c'est ça qui fait sa joie. Je crois que ça participe à notre joie lorsque nous savons considérer les circonstances difficiles comme des opportunités. Au sein même de sa souffrance, Paul dit dans Philippiens chapitre 1 et au verset 15, il dit « Quelques-uns prêchent Christ par esprit de dispute ». Il dit « Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes ». Il dit « Ceux-ci agissent par amour, ceux qui font avec des dispositions bienveillantes ». Verset 17, « Tandis que ceux-là, ceux qui font avec des mauvaises dispositions, ils sont animés d'un esprit de dispute, ils annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. » Il dit qu'il y a des gens qui prêchent Christ, mais ils sont jaloux, peut-être. Et ils le font d'une manière telle qu'ils cherchent à me susciter encore des afflictions alors que je suis déjà dans les liens. Mais il ne se plaint pas de ça. Il le dit pour dire quoi? Pour dire que je me réjouis parce que ces personnes annoncent Christ. Regardez comment il dit cela. Il dit « Qu'importe, qu'importe !» Verset 18. « De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Il dit « Si Christ est annoncé, peu importe si leurs motifs sont, à mon égard, sont bons ou sont mauvais, c'est peu de choses. Ce qui m'intéresse, c'est que Christ soit annoncé. » Donc, dans cette situation où il était encore lui-même attaqué, il voit ça comme une opportunité parce que les autres, ils annoncent Christ pour lui faire du tort, mais il annonce quand même. Donc, tant mieux, Christ est annoncé, je m'en réjouis, il dit, et je m'en réjouirai encore. Et puis, il dit encore plus. Il dit, si vous regardez verset 12, on remonte, il dit, « Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Il dit, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Verset 14, « Et la plupart des frères, pas tous, mais la plupart des frères, dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Il dit, voilà, les liens, ces liens, sa captivité, est devenue une source d'encouragement pour les autres. Et il dit, comment voulez-vous que je ne sois pas dans la joie lorsque je vois que même Dieu utilise cette situation pour que des frères qui sont libres, qui n'ont pas de chaîne, puissent propager sans crainte la parole de Dieu. Quand il voit Paul et son exemple dans cette prison, lié, il dit qu'il est lié, il a des chaînes, hein, etc. Et il dit et sa capacité à parler de Christ, à être centré sur Christ, à présenter l'Évangile, il dit ben nous sommes libres, on devrait faire mieux que ça. Lorsque nous entendons les témoignages de ceux qui sont dans certains pays, qui sont torturés à cause de leur foi, mais que nous voyons combien même ils sont menacés, torturés, ils continuent à prêcher Christ, même des fois ouvertement. On se dit que notre petite crainte de moquerie, c'est quand même, on exagère quand même. D'accord? Cela devrait nous encourager. Et Dieu sait que parfois les gens libres, comme nous, sont des peureux qui ont besoin d'être encouragés par des chrétiens enchaînés. En fait, les vrais enchaînés, c'est ceux qui sont libres. Ils ne sont pas retenus par des chaînes de fer, mais ils sont retenus par les chaînes de la peur, par les chaînes de la moquerie, par les chaînes du « quand dira-t-on » voyez-vous ici. Hein. Donc, c'est vraiment une source d'encouragement. Il dit que ces liens sont pour lui, ici, une source, sont pour les autres, ici, une source d'encouragement pour l'évangélisation. Et cela doit être pour nous aussi un exemple. Ce qui permet de supporter avec joie les épreuves, les limitations, c'est de considérer que Dieu utilise, bien sûr, les obstacles comme des opportunités pour le progrès de l'Évangile. Et donc, peut-être on peut dire, mais moi, j'ai pas toute la mobilité, voilà, que je désire avoir, je suis privé de me déplacer, je sais pas moi, j'ai pas toutes les possibilités d'aller vers les autres. Nous devons nous poser la question, comment est-ce que dans la situation où je suis, je peux témoigner fidèlement pour la cause de Christ? Comment est-ce que la situation dans laquelle je me trouve peut servir à propager l'Évangile. Ce n'est pas, Dieu n'a pas, c'est pas les circonstances ne sont pas un obstacle pour le Seigneur. Ce qui est, qu'il cherche, c'est des cœurs capables d'utiliser les obstacles comme, on pourrait dire, des tremplins, d'accord, pour lui. L'apôtre Paul disait que la parole de Dieu, hein, je crois qu'il disait cela comme ça, la parole de Dieu n'est pas liée, hein, quand il parle à Timothée. Il dit, je suis dans les liens, mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Et donc, loin d'être un obstacle, les liens deviennent, les difficultés deviennent des tremplins. Et remarquez que l'apôtre Paul ne dit pas que, en dépit des difficultés, l'Évangile s'est propagé, hein. Il ne dit pas, malgré les difficultés, l'Évangile s'est propagé, mais c'est comme s'il disait, par les difficultés, par mes liens, eh bien, il a pu propager l'Évangile. Ces liens sont devenus des liens, des tremplins pour la propagation de l'Évangile. Et puis, troisièmement, aussi, on pourrait dire que Paul expérimentait la joie dans sa situation parce qu'il plaçait la communion de l'Évangile au centre de la relation qu'il entretenait avec cette église, les frères et sœurs de cette église. Paul relie sa joie dans le verset 3 et 4 à la communion des Philippiens à l'Évangile. Ce qu'il dit, regardez Philippiens chapitre 1, verset 3, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Vous voyez, la part que vous prenez à l'Évangile. Il s'agit, le mot « part » ici, c'est le mot qui décrit la communion, votre communion à l'Évangile. C'est un peu la même pensée quand l'apôtre Jean dit « Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. » Donc sa joie est liée au fait du fait qu'ils sont dans cette communion de l'Évangile. Mais qu'est-ce que la communion ici? Nous avons peut-être une définition un peu propre à nous de ce terme. Pour certains, c'est le fait de se retrouver ensemble, de partager un repas, de manger. On dit on a eu une bonne communion parce qu'on a eu un bon repas, hein, par exemple. Hein, ou de prendre des nouvelles les uns des autres, de discuter du travail, des résultats des enfants à l'école. Parfois, quand on peut faire cela, on a eu une bonne communion. Mais on peut faire ces choses, n'est-ce pas, avec un voisin ou avec un collègue, par exemple. Et donc, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes en communion avec le voisin ou le collègue, enfin au sens biblique du terme, parce qu'on a partagé un repas ou parce qu'on a partagé une balade, une discussion? Non, je crois pas. Donc si on partage ces choses aussi avec un chrétien, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu une communion avec un chrétien? Non. En tout cas, pas la communion, on a eu un temps agréable, mais pas la communion telle que la parole de Dieu le décrit. Par exemple, quand on lit Actes chapitre 2, il est dit que les chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle, hein, et la Bible montre qu'ils mettaient en commun une communion parce qu'ils mettaient en commun quelque chose. Et donc, le fait de parler de communion, cela veut dire qu'il y a quelque chose que l'on a en commun. L'apôtre Paul dit ce qu'il y a en commun ici. Il dit, ici, dans le passage que nous avons lu, il dit « Je manifeste ma joie au sujet à cause de la communion, de la part que vous prenez à l'Évangile. » Et il dit ce qui est au centre de cette communion, c'est l'Évangile. Et c'est ça qui fait sa joie. Ce qui fait sa joie, c'est que les Philippiens participent à la communion de l'Évangile. Ils sont des chrétiens comme lui, participants. Il le dit au verset 7, il dit, « Vous tous qui participez, c'est encore un mot, à la même grâce que moi. » C'est-à-dire que lorsqu'il voit les Philippiens, lorsqu'il pense à eux, il ne pense pas à eux comme des personnes disparates, il pense à eux comme faisant partie du même corps, participant à la même grâce que lui, partageant le même évangile, la même bonne nouvelle, le même Seigneur, le même Sauveur. C'est comme ça qu'il les voit. Je ne sais pas quelle est notre première pensée lorsque nous pensons aux autres, à un autre frère ou à une autre sœur. Est-ce que chaque fois que nous pensons à ces personnes, plutôt à quoi nous pensons quand nous pensons chaque fois à ces personnes? Au dernier coup fourré qu'ils nous ont fait, ou je ne sais pas, dernière parole blessante qu'ils nous ont prononcée. Moi, je me dis quelque chose. Je me dis, Paul dit que chaque fois qu'il fait mention de ces personnes, il est dans la joie et il pense à leur communion. Il dit même qu'il les aime. Plus loin, il dit qu'il les chérit de la tendresse de Christ dans leur cœur. Je me dis, où ces chrétiens étaient parfaits et donc normal, où ils sont comme vous et moi, et je crois qu'ils sont comme vous et moi, qu'ils étaient comme vous et moi, et qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que ça veut dire que Paul considère les chrétiens d'une manière particulière. Et je crois que c'est la seconde solution qui est la bonne. Il dit, je crois que quand il les regarde, il dit, il les regarde en, pourrait presque dire au travers de l'évangile de Christ. Quand l'apôtre Paul parle, il parle du frère pour lequel Christ est mort. Il regarde toujours en rapport avec Christ. Et ce qui fait que souvent nous sommes dans le mécontentement, parfois les uns à l'égard des autres, c'est parce que nous regardons les gens en fonction de ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils sont, d'où ils viennent, etc., etc. Mais Paul, même si ces chrétiens avaient des difficultés, et ils avaient des difficultés, vous voyez, le chapitre 2, il les appelle à être animés du même sentiment qui était en Jésus-Christ, c'est qu'ils ne l'étaient pas, ils avaient besoin de progresser. Au chapitre 4, il parle, il dit, il y a Évodie et Saint-Tiche qui ont indifférent, aide-les à marcher ensemble. Donc ces chrétiens avaient des difficultés. Mais quand ils pensent à eux, ils pensent à eux sous l'angle de l'évangile. Vous participez à la même grâce que moi. Ils pensent à ce que nous avons en commun. Et ça constitue sa joie au sein même de la difficulté. Et c'est ainsi, je crois, que nous devons apprendre aussi à regarder les hommes et les autres. Mettre l'évangile, la communion de l'évangile, ce que nous avons en commun, Jésus-Christ, la foi de l'évangile, mettre ces choses au centre même de notre pensée lorsque nous pensons aux frères et sœurs. Donc Paul ne considère pas les chrétiens en fonction de ce qu'ils sont ethniquement, de ce qu'ils sont socialement ou intellectuellement, il ne les considère qu'en raison ce qu'ils ont en commun. Dans d'autres passages, Romains chapitre 1, il parle de la foi commune à vous et à moi. L'apôtre Pierre parle de la même chose. Il dit, vous avez reçu en partage une foi de la même nature que la nôtre. Et c'est temps, si on veut grandir et aimer, c'est de ne pas regarder en fonction d'autres prismes que de Jésus-Christ. C'est comme cela que l'on doit apprendre à considérer les gens, et donc les considérer comme des frères, comme des sœurs, ayant le même esprit qui nous habite. Hein. Et la communion, en fait, que nous avons les uns avec les autres, elle est de fait. Elle est de fait. Si on est en Christ, la Bible dit, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous avez tous été baptisés dans un même esprit afin de former combien de corps ? Un seul corps. Un seul corps. Donc nous venons à Christ, nous recevons son esprit et son esprit nous plonge dans le corps de Christ. Et que nous le voulions ou non, nous sommes unis les uns aux autres. Et il est important que le chrétien apprenne à regarder les autres au travers de cette communion, de ce partage, hein, de cet évangile qui leur est commun. Et notez que Paul affirme aussi et qu'il les aime et qu'il les chérit avec la tendresse de Jésus-Christ. Il dit, il est juste, versets 7 à 8, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous tous, vous qui tous participez encore à la même grâce que moi. Vous voyez, il dit, je vous aime, vous qui participez à la même grâce que moi. Il ne dit pas, je vous aime, vous qui êtes juif. Je vous aime, vous qui êtes païen. Je vous aime, vous qui êtes comme moi. Je vous aime, vous qui... Non, je vous aime, vous qui participez à la même grâce que moi. Parce que nous sommes dans cette communion dans laquelle Christ nous a plongés. Donc, il est difficile de ne pas aimer, chers frères et sœurs, quelqu'un pour qui on prie continuellement. Et si nous voulons apprendre à aimer, il faut apprendre à prier les uns pour les autres. L'apôtre Paul dit ici, et c'est sa joie de prier particulièrement, spécifiquement, continuellement. Il dit, je ne cesse, hein, vous avez vu le passage, il dit, verset 4, il dit, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de votre communion, à cause de votre communion à l'Évangile. Donc, il priait continuellement pour chacun, pas pour ceux qu'il aimait le plus. Il dit, regardez, il dit ici, « Pour vous, je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières, pour vous tous, sans exception, sans exception. » Ce n'est pas celui-là, je l'aime bien, est-ce que je prie pour lui ? Quand parfois on a des différends dans les couples ou, je sais pas, ou dans les relations entre frères et sœurs, parfois on demande aux gens, est-ce que tu pries pour ce frère ou cette sœur avec qui tu as des difficultés? Et la plupart du temps, la réponse honnête des frères et sœurs est non, je ne le fais pas. Je n'arrive pas à prier pour lui ou pour elle. Après tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'elle m'a fait, je n'arrive pas. Et Paul dit que si nous, le texte nous montre que si nous voulons être animés de la joie de Christ, il faut apprendre à prier pour tous, à aimer dans la prière. La prière nous aide, nous amène à l'amour les uns pour les autres. C'est pour ça que Paul peut dire je rends grâce à Dieu, et même aussi à rendre grâce à Dieu, on l'a pas dit, hein, ici, il est reconnaissant à Dieu pour ses frères et sœur de Philippe. Il voit les progrès de l'Évangile dans leur vie. Et il loue Dieu pour cela, même si ils ont des difficultés par ailleurs. Et cela le remplit de joie. Notre manque de joie, chers frères et sœurs, et notre morosité spirituelle, parfois proviennent en grande partie de notre négligence à prier avec reconnaissance pour tous nos frères et sœurs. Et la prière pour les frères et la joie sont liés. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans une autre lettre. Il dit, soyez toujours joyeux. Il poursuit, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Priez les uns pour les autres. Et notre manque de joie vient aussi de ce que nous détachons de la foi qui nous est commune, de la grâce qui nous est commune, de l'Évangile qui nous est commun, pour regarder les uns les autres à travers ce qu'ils sont, plus qu'à travers de la communion que nous avons en Christ. Il dit, je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense de la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Donc, à quoi résidait la joie de l'apôtre Paul? Le fait que sa vie était centrée sur Christ, le fait qu'il savait regarder les obstacles, les difficultés comme des opportunités. Et puis aussi dans le fait qu'il plaçait la communion de l'Évangile au centre de la relation qu'il entretenait avec les autres. En conclusion, je voudrais dire ceci. La joie véritable n'est pas un sentiment qui dépend des circonstances heureuses ou de la satisfaction, comme le dictionnaire le dit, de nos désirs. La joie véritable est liée à Christ et au salut qu'il offre. Vous pouvez penser, mais je connais des gens qui sont joyeux et ils ne sont pas en Christ. Oui, certaines joies qui est liée aux circonstances, mais une joie véritable doit être une joie éternelle. Ce qui se termine avec la vie et puis qui peut nous précipiter dans le châtiment de Dieu n'est pas une joie véritable. La Bible, Job dit dans Job 20, regardez ici Job 20 verset 4, il dit, ceci, je peux lire hein, si vous n'avez pas le temps d'y arriver, Job 20, verset 4, qui dit « Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée ?» Il dit que la joie de ceux qui ne connaissent pas Dieu est momentanée. Oh oui, nous pouvons penser qu'il y a de la joie, hein, comme disait Charles Trenet. Et parfois, on pense que le méchant, il est, le psaume 73, hein, Asaph le dit, hein, il regarde et puis il voit le bonheur du méchant. Il dit, moi, tous les jours, je fais des efforts pour suivre Dieu. Et puis, voilà, lui, le méchant, il a de l'embonpoint. Son ventre, il est rond, il a un double menton, etc. Il mange bien, etc. Et moi, non. Il dit, mais à quoi ça me sert de... Et il dit, mais c'était une difficulté pour moi, jusqu'à ce que je regarde au sort final. Au sort final. Et donc, la parole de Dieu nous demande de regarder au sort final. C'est là que nous devons regarder, pas dans les circonstances. C'est pour ça qu'il ne faut pas lier la joie aux circonstances. Aux circonstances. Jésus a dit à ses disciples qu'il avait envoyé avec le pouvoir de chasser les démons. Vous vous rappelez de ça? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a des gens qui recherchent ça beaucoup de nos jours. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Et Jésus leur dit, cependant, je vous ai donné ce pouvoir, mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous demande de ne pas nous réjouir. Le succès, encore spectaculaire, il dit, ce n'est pas dans cela qu'il faut mettre votre joie. Il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il parle du salut ici, que Dieu a écrit vos noms dans les cieux. Vous pouvez toujours faire des miracles et que vos noms ne sont pas écrits dans les cieux. Judas a fait des miracles aussi, parce que Judas faisait partie des 12 et Matthieu 10 le dit, que Jésus a envoyé avec ce pouvoir. Et certainement, il a fait des miracles, parce que s'il n'en avait pas fait, les autres auraient eu des soupçons contre lui. Il est bizarre, il ne fait pas de miracles, tout le monde en fait tous. Sauf un, il y a un petit problème. Donc il en a fait. Okay? Donc ce n'est pas là que doit être la joie, mais dans le fait que le nom est écrit. La joie véritable est liée au salut en Jésus-Christ. Et il n'y a pas de joie véritable sans connaître Christ. La Bible dit même que la joie, c'est le fruit de l'esprit. Et l'esprit, nous le recevons lorsque... Eh bien, Dieu nous rachète et qu'on devienne un enfant de Dieu. Deuxièmement, je dis que la joie que Christ donne cohabite sans problème avec la difficulté. La joie que Christ donne cohabite sans problème avec les difficultés. L'apôtre Paul, parlant des églises de la Macédoine, Philippe était une ville de la Macédoine, hein, il dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Au milieu des tribulations, leur joie était débordante. Il n'y a pas de problème de compatibilité entre les circonstances difficiles et la véritable joie. Ce que nous apprenons de ce passage. Et puis troisièmement, je voudrais dire que ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas d'un changement de circonstance, mais un changement d'attitude et de mentalité dans nos circonstances. Ce que nous avons le plus besoin, ce n'est pas un changement de circonstance, mais un changement de mentalité et d'attitude dans nos circonstances. Changement de mentalité à l'égard de Christ. Apprendre à avoir nos pensées occupées avec Christ. Méditer sur lui, sur qui il est, sa parole. Espérer en lui, estimer tout en rapport avec Christ, comme l'apôtre Paul l'a fait. Changement de mentalité aussi à l'égard des circonstances. Elles peuvent être des opportunités. Alors bien sûr, je ne parle pas des situations de péché dans lesquelles il faut fuir, hein, dans laquelle il faut sortir. Mais une situation comme celle de l'apôtre Paul, des difficultés qui nous arrivent, comme cela que nous n'avons pas cherché, eh bien, elles peuvent être des opportunités pour nous-mêmes, dans notre progrès de l'Évangile, pour le progrès de l'Évangile tout court, mais aussi, elle peut être une opportunité d'encouragement pour les autres. Dieu utilise nos propres situations pour l'édification aussi des autres. Et nous ne devons pas oublier aussi cela. Donc, quand quelque chose nous arrive, ne l'amplifions pas. Hein. L'apôtre Paul n'a pas amplifié la circonstance, mais il a plutôt minimisé la circonstance aux yeux des Philippiens, leur disant « Cela a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Je veux que vous le sachiez. Oubliez la circonstance, pensez au progrès que l'Évangile a pu faire par ce biais. Et puis, un changement de mentalité aussi à l'égard des autres frères, les considérer sous l'angle de l'Évangile, les aimer, prier pour eux. Cela est propre à produire une véritable joie dans la vie du croyant. Et je termine quatrièmement, l'ordre du Seigneur pour nous est le suivant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et si nous n'avons pas entendu, l'apôtre Paul dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que Dieu nous aide et par son esprit à mettre sa parole en pratique. J'aimerais juste lire les paroles du chant qu'on a projeté tout à l'heure pendant les offrandes qui parle de... Il y avait un moment où ça parlait de la joie, je crois aussi. Hein, j'ai lu... Ça va arriver. Alors, je peux les lire peut-être dans le... Ça y est. Il dit, déchargez tout fardeau sur Jésus, car il voudrait prendre soin de vous, apporter toute la tristesse vers celui dont le cœur est si doux. Ce que Paul a dû faire, certainement. Confiez vos craintes au Sauveur. Si sa volonté est votre but, déchargez tout fardeau sur Jésus, car il prend soin de vous. La deuxième, lorsque le soleil est dans l'ombre, l'arc-en-ciel se cache à votre vue, quand les ennemis sont nombreux et les joies semblent être perdues, il dit, oh, la joie sublime, bon, il y a les joies qui sont des joies du monde, mais il y a une joie qui est sublime. La joie sublime est offerte. Si sa volonté est votre but, déchargez tout fardeau sur Jésus, car il prend soin de vous. Il y a des temps où les joies qui sont liées aux circonstances disparaissent et où elles sont perdues. Mais la joie sublime, celle-là, elle est toujours, toujours offerte en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Prions. Te remercions, Seigneur, pour ta parole et pour l'exemple que nous avons de ton serviteur Paul. Et nous te prions que, par ton esprit, nous apprenions à nous réjouir en toi. Aide-nous à mettre ce commandement en pratique dans notre vie. Amen.